Au rôle de quoi donc? On va pas dire de l'islam quand même, on va dire de l'islamisme, pour être très précis, en Tunisie cette fois-ci, où Serge Halimi s'est rendu et donne un texte assez long sur l'évolution d'Ennahda, du Parti de la Renaissance, en Tunisie, qui avait été élu, on s'en souvient, en octobre 2011, avec une majorité pas suffisante pour être seul au gouvernement, mais qui avait été élu à l'époque. Et deux ans après, le bilan de ce parti au pouvoir est assez mitigé, selon Serge Halimi.
Oui, la difficulté, c'est déjà d'employer le terme d'islamisme ou d'islamiste, qui est maintenant une expression qui balaie quand même très large, qui va de l'AKP turc à Al-Qaïda. Donc quand on emploie cette expression, on provoque toutes sortes d'inquiétudes qui, dans certains cas, sont justifiées et dans d'autres ne le sont pas. Il me semble que ce qui s'est passé en Tunisie et peut-être un peu ce qui s'est passé en Égypte, c'est un déroulement en trois étapes. La première étape, c'est la chute de dictature pour des raisons politiques, bien sûr, l'absence de liberté publique, l'autocratie, le népotisme, mais aussi et principalement pour des raisons économiques et sociales. Les inégalités, le chômage des jeunes, l'absence de mobilité sociale, le développement très inégal entre les régions. Donc première étape, les dictatures tombent. Deuxième étape, les remplacent des régimes islamistes qui arrivent au pouvoir démocratiquement, qui remportent les élections assez largement, parce que les islamistes sont auréolés de la répression qu'ils ont subie. Ils ont été la cible principale de la dictature, ils ont connu l'exil, l'incarcération, les tortures. Ils ne sont pas corrompus, mais ils arrivent au pouvoir pour résoudre des problèmes qui sont principalement économiques et sociaux, alors qu'ils n'ont pas de projet économique et social de rechange, que ce sont pour l'essentiel des partis libéraux, qu'il s'agisse de la Turquie, de la Tunisie ou de l'Égypte. Et on a appris hier que l'Égypte s'apprêtait à souscrire aux conditions d'un prêt du FMI. On sait à peu près ce que ça veut dire dans un pays du Sud, quand un gouvernement se prépare à passer sous les fourches caudines du FMI. Donc deuxième étape, ces partis arrivent au pouvoir pour résoudre un certain nombre de problèmes économiques et sociaux sans avoir de projet de rechange, si ce n'est de poursuivre grosso modo la politique de Ben Ali. Mais on pourrait dire ça aussi de la plupart des pseudo-laïcs tunisiens qui sont assez largement aussi des libéraux. Donc la troisième étape, on y est, c'est l'essoufflement des islamistes au pouvoir. Le mécontentement économique et social persiste. Les islamistes et leurs adversaires, d'une certaine manière, se polarisent alors sur la question identitaire et religieuse pour maquiller leur absence de réponse aux questions, aux problèmes économiques et sociaux. Et il me semble que cette troisième étape, c'est là que nous nous trouvons aujourd'hui, en tout cas dans le cas de la Tunisie. 18 mois après l'élection de l'Assemblée constituante n'a pas accouché d'une constitution. Quand on élit une assemblée constituante, c'est en général pour qu'elle écrive une constitution. Ça s'est fait assez vite dans le cas de la France à la Libération. Il y a eu deux constitutions qui ont été écrites en 3 mois. Bon, là, on est 18 mois plus tard, il n'y a toujours pas de constitution.
Ni d'élection, parce que les élections étaient promises pour les mois à venir.
Mais il ne peut pas y avoir d'élection tant qu'il n'y a pas de constitution qui donne en quelque sorte la manière de procéder aux élections. Tout ça n'est pas réglé. Donc tant qu'il n'y a pas de constitution, il ne peut pas y avoir d'élection. Au plan économique, les investissements sont en panne. À vrai dire, les islamistes, s'ils avaient un projet, c'était essentiellement de remplacer les investissements des pays occidentaux ou d'essayer de les remplacer par des investissements des pays du Golfe. Et ils comptaient beaucoup sur le Qatar. Or,
tout le monde compte sur le Qatar.
Compte sur le Qatar.
Nous aussi, ici, on attend le Qatar ici.
Mais dans le cas des Tunisiens, on peut dire que la manne du Qatar n'est pas venue. Par ailleurs, le tourisme et les phosphates, qui sont les deux poumons économiques de la Tunisie, battent de l'aile. Évidemment, plus on relate qu'en Tunisie, ça va pas, plus les touristes occidentaux en particulier, qui sont d'un naturel assez peureux, décident d'aller ailleurs. Même chose, si on peut dire, pour les phosphates. Là, c'est qu'il y a des grèves qui se déroulent en permanence dans la région et qui sont souvent pas tellement le fait des ouvriers qui ne sont pas satisfaits de leurs conditions salariales, mais le fait des chômeurs qui aimeraient être embauchés par les entreprises de phosphates. Et évidemment, tant qu'il n'y a pas de développement régional, eh bien, les chômeurs, ils cherchent un moyen d'avoir une existence.
Et puis, il y a les entreprises françaises, les 1200 entreprises françaises qui s'entendaient très, très